journal, Frédéric Métezeau, bonjour.
Bonjour à tous. L'addition pour les GAFA. Le gouvernement présente sa taxe sur les géants du numérique. 500 millions d'euros espérés, mais sans pénaliser les start-up françaises. La majorité parle d'efficacité économique et de justice fiscale. Pour la droite, la France est trop isolée en Europe. Pour la gauche, elle ne va pas assez loin. À 8h20, Nicolas, vous recevez la tête de liste des Insoumis pour les européennes et les spécialistes de l'évasion et de la fraude fiscale.
Manon Aubry, l'invité du grand entretien de la matinale. Appelez-nous 01 45 24 7000, intervenez sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter.
Dans 5 minutes, nous serons en direct de la prison de Condé-sur-Sarthe, bloquée depuis hier soir. Un détenu radicalisé a blessé deux gardiens à coups de couteau. Sa compagne, qui lui avait apporté l'arme, a été tuée par le raid. Un revenu de citoyenneté en Italie. Le gouvernement italien lance aujourd'hui une sorte de revenu de base promis par le mouvement 5 étoiles. Un chantage à la stabilité en Algérie. L'armée met en garde les manifestants. Ce sera soit Bouteflika, soit le retour à la guerre civile. Un coup de tonnerre en Ligue des champions de football. Le Real de Madrid éliminé à domicile par l'Ajax d'Amsterdam. Un coup de cœur au cinéma, celui d'Eva Bettan pour un projet complètement fou. Un film argentin de plus de 14 heures en 4 épisodes. Le premier sort aujourd'hui. Il y en a pour plus de 3 heures, mais promis, ça passe tout seul.
France Inter.
Comment rattraper les géants du numérique qui échappent trop souvent à un juste impôt? Comment taxer ces GAFA ou GAFAM type Google, Amazon, Facebook, Apple ou Facebook? Faute d'un accord européen, la taxe GAFA en France est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Nous y voilà après plusieurs mois de travail et une équation délicate à résoudre, Fabien Cazot.
Comment taxer les géants américains du numérique sans pénaliser les start-up françaises? Le critère retenu est double. Pour être redevable de la taxe, il faut d'une part réaliser au moins 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et d'autre part au moins 750 millions à l'étranger. Un double seuil qui permet de cibler principalement les grandes entreprises étrangères qui réalisent une partie de leurs bénéfices en France mais qui échappaient à l'impôt jusqu'à présent. Le taux sera le même pour tous, 3%. Applicable sur les profits issus de la publicité en ligne, de l'exploitation des données personnelles et du chiffre d'affaires des plateformes de commerce en ligne. La mesure a ses fervents défenseurs en France, comme par exemple l'enseigne Carrefour, en concurrence frontale et mondiale avec Amazon. Le ministère de l'Économie, de son côté, attend de sa taxe GAFA un gain de 500 millions d'euros par an pour les finances publiques.
Voilà donc pour cette taxe française sur les GAFA. Il n'y a pas eu d'accord européen parce que l'Allemagne, entre autres, traîne des pieds. Mais en pleine crise des gilets jaunes et à 3 mois des élections européennes, la majorité voulait avancer, Karine Bécard.
Pour le gouvernement, taxer les GAFA est aujourd'hui devenu urgent. Pourquoi? Parce qu'après la crise des gilets jaunes, oser imposer ces multinationales est une question de justice sociale. Erwan Balanant, député du Finistère, appartenant à la majorité.
N'importe quel chef d'entreprise en France qui ne paierait pas tous ses impôts réussirait beaucoup plus facilement, c'est évident. Donc aujourd'hui, les GAFAM ne payent pas d'impôts, il faut qu'ils le payent de façon juste par rapport à la richesse qu'ils produisent. Et c'est logique et c'est très bien que la France montre l'exemple sur ce sujet-là.
Sauf que la France est donc toute seule, sans le soutien de ses voisins européens. Ce que déplore le député LR Philippe Gosselin à 3 mois des élections européennes.
C'est un signal qui est donné et qui ne me paraît pas un mauvais signal, mais qui sera malheureusement vraisemblablement peu suivi d'effet parce que les 27 autres n'appliqueront pas les mêmes règles.
La gauche aussi ne manque pas d'être critique. Pour l'élu socialiste Boris Vallaud, le gouvernement n'a pas vu assez grand.
Il n'y a pas que les GAFA qui se livrent à de l'optimisation fiscale agressive. Moi je suis pour que toutes les multinationales payent leurs impôts là où elles font leur chiffre d'affaires. Voilà, moi je dis encore un effort.
En fait, ce sont une trentaine de sociétés étrangères qui vont être visés par ce projet de loi. Une mesure de rééquilibrage fiscal attendue depuis longtemps et qui, dans le contexte actuel, ne peut être que la bienvenue.
À 8h20, la tête de liste insoumise européenne, Manon Aubry, sera donc l'invitée du grand entretien de France Inter. Elle est spécialiste de la fraude et de l'optimisation fiscale. Et alors que la gauche part bien éparpillée avec au moins 5 listes sur la ligne de départ, Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon accuse la tête de liste écolo Yannick Jadot d'être le représentant, je le cite, de l'écologie de marché. Il serait prêt à s'allier avec la droite et les libéraux européens, ce que dément Yannick Jadot. À droite, Rachida Dati ne se représentera pas à ces européennes. La maire du 7e arrondissement de Paris annonce dans le Figaro qu'elle réfléchit très sérieusement à être tête de liste dans la capitale l'année prochaine contre Anne Hidalgo. Aujourd'hui, la commission d'investiture de LR doit révéler les noms de 30 candidats aux européennes sur 70, mais sans donner leur place sur la liste, histoire de maintenir la pression et la mobilisation, selon l'entourage de Laurent Wauquiez.
Il est 8h05, la prison Frédéric de Condé-sur-Sarthe est bloquée.
Hier, un détenu converti à l'islam et radicalisé a grièvement blessé deux surveillants à coups de couteau. Ils sont hors de danger ce matin. Sa femme, qui lui avait fourni ce couteau en céramique lors d'une visite en unité de vie familiale, a été tuée par le raid. Le suspect est en garde à vue avec deux co-détenus. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Condé-sur-Sarthe en Normandie, Delphine. Les surveillants pénitentiaires sont bouleversés et en colère.
Oui, feu de palette, bonnet vissé sur la tête. Ils sont une centaine ce matin à bloquer l'accès à cette prison sortie de terre en 2014. Le directeur de l'établissement est lui-même resté à la porte, bloqué par des personnels encore choqués d'avoir vu, pour certains, leurs deux collègues évacués en sang hier. Et s'ils sont en colère, c'est parce que l'histoire se répète. Janvier 2018, trois surveillants agressés par un détenu islamiste à Vendin-le-Vieil. Des jours de mobilisation, un dialogue avec la ministre, mais un an plus tard, il y a beaucoup d'amertume, soupire David, représentant CGT à la prison de Condé-sur-Sarthe.
Des promesses, voilà ce qu'on a eu. Il y a eu des choses décrites, c'est bien, on a eu des porte-menottes, qui sont donc c'est des trappes qui sont ouvertes dans les portes pour qu'on puisse les menotter de l'extérieur, mais il n'y a aucune réglementation qui nous permet de les utiliser. C'est complètement aberrant d'avoir mis des millions là-dedans, alors qu'on n'est même pas capable d'avoir du personnel sur des établissements en manque, comme le nôtre, à moins 47 agents déjà, rien que sur l'effectif normal.
Maître de l'argent pour les effectifs, Emmanuel Guimarès, délégué national FO pénitentiaire, a l'impression de répéter en boucle la même revendication.
On a un salaire de 1400 euros quand on débute, on a une prime dite vulgairement de risque, mais 1400 euros pour prendre des coups de couteau comme hier, c'est pas possible, ça n'attire pas. Donc si on revalorise le statut des surveillants, si on revalorise les salaires, on va permettre de recruter davantage et surtout de fidéliser davantage.
La venue sur place hier soir de la garde des Sceaux est loin d'avoir calmé les esprits. Nicole Belloubet s'est contentée de promettre une enquête sur ce qui a permis qu'un couteau soit introduit dans la prison. On ne se contentera à plus de pansements sur une jambe de bois, expliquent les surveillants, alors que la barre de la 100e agression de l'un des leurs a été franchie hier.
Delphine Evenou en direct de Condé-sur-Sarthe pour France Inter, liaison satellite assurée par Laurent Lucas. La manifestation était interdite, elle a eu lieu et elle a dégénéré. À Montpellier, hier soir, des autonomes d'extrême gauche organisaient le carnaval des gueux qui avait déjà donné lieu à des débordements les années passées. Selon France Bleu Héros, 400 personnes se sont réunies en ville, au moins 4 ont été interpellées pour dégradation, outrage à agents et troubles à l'ordre public. L'actualité à l'étranger, Carlos Ghosn devrait bientôt sortir de prison. Selon notre correspondante à Tokyo, sa voiture est garée devant sa prison. Les avocats de l'ex-PDG de Renault ont déposé sa caution de 8 millions d'euros en liquide, nous dit-on. Et malgré une assignation à résidence très stricte et une vidéosurveillance constante, Carlos Ghosn semble combatif. Il pourrait très vite donner une conférence de presse. Macky Sall proclamé vainqueur de la présidentielle au Sénégal. Le sortant a recueilli 58% des voix au premier tour. Il invite l'opposition à un dialogue constructif. En Algérie, le pouvoir est nettement moins conciliant. Nouvelle manifestation étudiante hier et l'armée appelle à la vigilance. Elle met en garde les contestataires contre une éventuelle déstabilisation du pays. Comme le maréchal Sissi en Égypte, les militaires algériens reprennent régulièrement cet argument du chaos, Leïla Berhatou.
Dans un discours à l'académie militaire de Cherchel, à l'ouest de la capitale, Ahmed Gaït Salah, le chef d'état-major, a évoqué les manifestations en cours dans le pays, estimant qu'il fallait être vigilant.
Cela n'a pas plu à certaines parties de voir l'Algérie sûre et stable. Et ils veulent qu'elle retourne aux douloureuses années de braise.
Cette référence, c'est celle aux années 90 et au terrorisme que les autorités lient régulièrement dans leurs discours, aux grandes manifestations d'octobre 88 et aux demandes de changement de cette époque. L'argument du possible chaos est un argument récurrent des autorités depuis le début du mouvement, les autorités qui soulignent que les appels à manifester sont anonymes. Et à l'inverse, pour les défenseurs du cinquième mandat, Abdelaziz Bouteflika doit rester car c'est lui qui a ramené la stabilité. Et Ahmed Gaït Salah, 79 ans, fait partie du premier cercle de proches du président algérien. À Alger, Lila Berato, RFI pour France Inter.
Vers une sortie de crise au Nicaragua, le gouvernement de Daniel Ortega et son opposition s'engagent sur une feuille de route avec l'ambassadeur du Vatican comme médiateur. Les églises catholiques et protestantes seront très impliquées dans le processus de réconciliation. Et cela après un an d'affrontement, 300 morts et la ruine économique du pays. Des dizaines de milliers de Nicaraguayens ont quitté leur pays. C'est parti pour le revenu de citoyenneté en Italie. Les personnes sans travail et sans revenu peuvent déposer à partir d'aujourd'hui un dossier pour l'obtenir. C'était la promesse de campagne du mouvement 5 étoiles au gouvernement avec la Ligue d'extrême droite. Les 5 étoiles veulent favoriser le retour à l'emploi et soutenir la consommation. Mais beaucoup d'économistes italiens restent sceptiques, Mathilde Imberti.
La mesure phare du mouvement 5 étoiles arrive en phase de concrétisation. Plus qu'un revenu universel, il s'agit d'une allocation de base limitée aux ménages très défavorisés. Elle est assujettie à de nombreuses conditions. Marco, un Romain de 34 ans, y a droit. Il est sans travail depuis plus d'un an et n'est pas propriétaire.
L'État nous donne un minimum en attendant de nous retrouver un travail. C'est comme un coup de pouce pour nous qui sommes dans des situations difficiles. Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on m'aide à trouver un job. Partout en Europe, il y a ce type d'aide sociale. Enfin, on l'a aussi en Italie.
L'allocation sera versée durant 18 mois, des offres d'emploi ou des formations proposées aux chômeurs. Montant maximum, 780 € pour un célibataire, 1 300 € pour une famille. Une mesure de lutte contre la pauvreté, certes, commente l'économiste Veronica De Romanis, mais en aucun cas une mesure de relance.
Le problème en Italie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de demandes de travail de la part des entreprises. L'impact sur la croissance risque d'être limité. Cette année, pour une dépense de 6 milliards, l'impact va être plus ou moins 1,8 milliard. Donc assez limité.
5 millions d'Italiens devraient bénéficier du dit revenu de citoyenneté. L'État le finance en augmentant son déficit budgétaire. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
On évoquait les géants du numérique et de la vente en ligne en début de journal. Eh bien, le gouvernement veut développer la vente de médicaments sur Internet. C'est déjà possible depuis 4 ans, mais ça reste dérisoire. Seulement 1% des ventes. C'est 15 fois moins qu'en Allemagne. Édouard Philippe veut donc en faire plus, car acheter ces médicaments en ligne, ce serait les payer moins cher. Mais qu'en pensent les principaux intéressés, les patients et les pharmaciens? Lisa Guyenne s'est rendue dans une officine parisienne.
Daniel sort tout juste de la pharmacie, ses médicaments sous le bras. Acheter en ligne, qu'en pense-t-elle?
Ah ben non, pas les médicaments. Je veux bien acheter une robe, des chaussures, n'importe quoi, mais pas des médicaments.
Pas question non plus de jouer avec sa santé pour Amiel, une cliente régulière de cette officine.
Je craindrais les copies, parce qu'il y a beaucoup de faux médicaments qui sont fabriqués dans d'autres pays et qui sont en vente sur Internet.
Et au-delà de la fiabilité, c'est l'importance du facteur humain qui pose question pour Sandra, la pharmacienne.
Nous, on pose toujours des questions pour savoir si la personne prend le médicament vraiment pour l'indication qu'elle recherche, si elle ne le mélange pas avec d'autres médicaments, il y a des interactions possibles, même le paracétamol, on peut faire des surdosages, donc encore faut-il le savoir, quoi. Nous on est là pour rappeler tout ça.
Bref, autant de raisons qui font douter de l'utilité même de cette mesure. Karine Wolf est la présidente de l'Ordre des pharmaciens.
Il y a 74% des Français qui ne se disent pas confiants dans le fait d'acheter des médicaments sur Internet. Après, je veux bien comprendre que certains pharmaciens souhaitent développer ce marché-là. Si on le développe dans un cadre tout à fait sécurisé, pourquoi pas, mais j'ai peur que ce soit pas quelque chose qui, en France, répond à un besoin.
D'autant qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'officines physiques. Selon la présidente de l'Ordre, une pharmacie est accessible en moins de 10 minutes partout en France.
Inter, 8h13, et le cinéma avec les sorties du mercredi, et un film hors norme sur nos grands écrans.
Oui, c'est un film Inter avec des extraits déjà visibles sur franceinter.fr. La flore de l'argentin Mariano Linas. Bonjour Eva Bétant.
Bonjour.
Film hors norme, nous disait Nicolas, film de plus de 14 heures, découpé en 4 parties qui sortiront tout au long du mois et que vous aussi, Eva, découvrirez au fur et à mesure, hein, histoire de ne pas spoiler, comme on dit.
Voilà.
Première partie aujourd'hui, 3h30, c'est un mariage étonnant entre cinéma et série.
Alors je vais vous dire, quand après 3h30 de film, le panneau continua à suivre s'affiche, on est prêt à poursuivre le cinéaste pour cruauté mentale parce qu'on voudrait qu'il continue à jouer avec nous. La question avec la flore n'est pas celle du chef-d'œuvre non Nicola pour cinéphile uniquement, c'est un objet de cinéma emballant et ludique. Donc 4 actrices, des épisodes, des histoires, des univers différents. Et elle qui joue chaque fois un rôle nouveau. Je vous donne un exemple. L'une que l'on a vue d'abord d'abord en laborantine et l'assistant d'une pop star dans l'épisode suivant. Laquelle pop star jouait une guérisseuse précédemment? Un réalisateur fou de ses actrices, il y en a. Mais Mariano Linas est allé jusqu'à inverser l'ordre des facteurs dans la conception même du film.
C'est un film de portrait fait pour quatre femmes. Elles ne sont pas là pour interpréter les personnages. Ce sont les personnages qui ont été inventés pour elles. Je les fais passer par tout un tas de péripéties, un peu à la manière d'une exposition des tableaux de Manet, où l'on verrait les mêmes personnages dans des situations et des habits différents.
Alors le film fonctionne par bouffée de plaisir, comme si chaque scène devait délivrer sa dose, c'est du sinoche et du bon, mais aussi avec des mystères, des peut-être. Ça c'est l'exercice de captation du spectateur qui est emprunté lui aux séries. À ce stade du jeu, ne retenant que le spectateur est ferré, qu'il est d'accord pour jouer, le point de repère ce sera les actrices qui sont magnétiques et après tout est possible. Par exemple, il sait qu'on a tort de dire du mal des scorpions, qu'il vaut mieux se méfier des momies et des chats, que les amoureux abandonnés exulteront en entendant les paroles d'anthologie de cette chanson de haine amour, il ne faut pas se moquer de ces femmes-là.
Je soy el fuego que acecha, que volverá pronto cenizas tu alma.
Je suis le feu qui te guette, qui réduira bientôt en cendres ton âme damnée. Je suis la flèche pointée sur ton cœur, la flèche empoisonnée. Je suis ta menace, ta torture, mais elle dit aussi, je te cherche en silence dans la nuit obscure.
Alors, ça s'appelle, merci Evita Bétan, ça s'appelle La Flore et c'est réalisé par l'Argentin Mariano Linas. Ça ne veut dire que 14h30 en
dommage,
4 épisodes.
J'ai une bouffée de chaleur là. Merci.
C'est bon en studio.
Ouais,
hein.
Merci Frédéric Mettezo. La météo tout de suite, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur prefonds-retraite.fr.
Une perturbation pluvieuse ondule du sud au nord, Stéphanie.
Oui, et elle apportera dès ce matin de la pluie des Pays de Loire et des Charentes vers les Hauts-de-France, de la Bretagne jusqu'au Cotentin, sur le Languedoc-Roussillon et la région PACA. Cet après-midi, les pluies gagnent l'Aquitaine, puis s'étendent vers la Champagne-Ardenne en passant par la région Centre et l'Île-de-France. En fin d'après-midi et en soirée, les précipitations prendront temporairement un caractère orageux sur le nord de Midi-Pyrénées et le massif central devenant soutenu par endroits. Il n'y aura finalement que la Corse qui passera à travers les gouttes. Cette perturbation est aussi accompagnée de vents autour de 70 km/h en Bretagne, le long des côtes de la Manche, sur la partie orientale du bassin aquitain, le sud-ouest du massif central, les Pyrénées, le Val-de-Saône et le pourtour méditerranéen. Les rafales pourraient atteindre les 100 km/h sur les sommets alpins et le reste du massif central, 120 sur les crêtes pyrénéennes et puis deux départements sont placés dès ce midi en vigilance orange pour vents violents. La Loire et le Rhône.
Plus clémentes seront les températures.
Et varieront au lever du jour entre 2 et 10 degrés d'est en ouest, 11 à 14 près des côtes aquitaines. Cet après-midi, vous pourrez compter sur 13 à 18 degrés sur la moitié nord, 16 à 22 sur la moitié sud. Il fera 13 degrés à Dunkerque, 14 à Lorient et Saint-Étienne, 15 à Paris comme à Fréjus, 17 à Colmar et Bastia, jusqu'à 18 à Châteauroux et 21 degrés à Tarbes.
Stéphanie Fromentin, merci.